Le médecin des pauvres. Deuxième partie, le château de l'aigle. Chapitre 1, Maggie la sorcière. Une vive sensation de froid mit fin au profond évanouissement dans lequel le jeune homme était plongé. Il entr'ouvrit les yeux et il vit, comme on voit à travers un épais brouillard, une forme de femme agenouillée à côté de lui. C'était la vieille Maggie, nous le savons déjà, qui s'efforçait de faire pour Raoul ce que Raoul avait fait pour elle, baignant ses tempes avec de l'eau glacée et lavant sa blessure, qui d'ailleurs était peu profonde. Certes, le coup d'épée de Limassou avait été assez vigoureusement appliqué pour fendre jusqu'aux oreilles une tête solidement bâtie. Mais par bonheur, l'arme ayant tourné dans la main du bandit, le plat seul de la lame s'était trouvé en contact avec le crâne, produisant ainsi une contusion et une écorchure, et non pas une plaie mortelle. Au moment où Raoul reprit l'usage de ses sens, l'engourdissement de son esprit ne cessa pas tout d'abord. Et, ainsi que cela arrive à un homme qui s'éveille d'un lourd sommeil, il ne se rappela rien de ce qui s'était passé. « Où suis-je ? » murmura-t-il d'une voix faible en portant la main à son front, sur lequel Maggie faisait couler l'eau goutte à goutte en pressant un linge mouillé. « Où suis-je et que m'est-il arrivé ?»« Messire Raoul, » répondit la vieille femme, « vous avez été victime d'un lâche guet-apens. On vous a traîtreusement assassiné par derrière, et on vous a laissé pour mort dans l'endroit où vous vous trouvez en ce moment, c'est-à-dire tout au bas de la descente de la Poya. Le hasard, ou plutôt la Providence, m'a rendu témoin du crime, et j'ai eu le bonheur d'être utile à mon tour à celui qui m'avait sauvé la vie. Je suis Maggie la sorcière. » Tandis que Maggie parlait, la lumière se faisait rapidement dans l'esprit de Raoul, et les souvenirs lui revenaient en foule. « Ah ! » s'écria-t-il en se soulevant, tandis que l'expression de la terreur et du désespoir venait contracter son visage livide et qu'un rapide frisson glaçait son sang dans ses veines. « Je me souviens, l'incendie, le capitaine Lacuzon. Églantine, oh mon Dieu, Églantine, où est-elle? Qu'est-elle devenue? Femme, le savez-vous? Au nom du ciel, si vous le savez, dites-moi ce qu'elle est devenue. Hélas, messire, la nièce du curé marquis a été enlevée. Par les assassins, n'est-ce pas? Par un seul d'entre eux, par un misérable, qui pour n'avoir point à partager sa proie, a tué son compagnon d'un coup de pistolet. Mais c'est le déshonneur pour elle, mon Dieu! Mais c'est la mort! Car cet homme, après l'avoir violentée, la tuera comme il a cru me tuer moi-même. Rassurez-vous, messire Raoul, la nièce du curé sera respectée par son ravisseur. Le croyez-vous réellement, femme? Le croyez-vous? Je fais mieux que le croire, j'en suis sûre. Qui vous donne cette certitude? Parlez, parlez vite. Les paroles mêmes du bandit qui s'est emparé de la jeune fille. Églantine n'est pas considérée par lui comme une femme, mais comme un otage qu'il s'apprête à vendre chèrement au plus redoutable ennemi des libertés franc-comtoises. Et cet ennemi, quel est-il? Le masque noir. Raoul, couché et immobile jusque-là, bondit sur ses pieds et essaya de se tenir debout. Mais il était faible et chancelant, et pour ne pas tomber, il fut obligé de s'appuyer sur l'épaule de Maggie. « Le masque noir ? » répéta-t-il. « Vous avez dit le masque noir ? » ?»« Je l'ai dit. Vous connaissez l'homme qui se cache sous ce masque ? » ?»« Je le connais. » »« Vous savez son vrai nom ? » ?»« Je le sais. » »« Vous savez où il se cache ? » ?»« Oui. » »« Vous savez alors où l'on va conduire Églantine ? » ?»« Je sais cela comme le reste. » »« Et vous allez me dire tout ce que vous savez, n'est-ce pas ? » ?»« Je vous le dirai, mais pas à vous seul. » Pourquoi ? Parce qu'il est un homme que ces terribles secrets intéressent autant que vous, et qui doit les apprendre en même temps que vous. Et cet homme ? C'est votre ami, c'est le capitaine Lacuzon. Vous avez raison, répondit Raoul. Lacuzon doit tout savoir. Venez, ne perdons pas un instant. Il m'attend sans doute au rendez-vous donné. Maggie secoua la tête. Quel est ce rendez-vous ? Demanda-t-elle ensuite. Le capitaine m'a indiqué, pour nous y retrouver, un sapin gigantesque situé sur la lisière de la forêt qui fait face à la ville. Et ce rendez-vous, quand vous l'a-t-il donné? Au moment où nous nous séparions, il y a tout au plus une heure. Messire Raoul, dit la vieille femme, Bien des heures se sont écoulées depuis le moment où vous avez perdu connaissance. La nuit est venue. C'est la lune qui nous éclaire et non pas le jour. Il est minuit passé. Le capitaine Lacuzon n'est plus au rendez-vous. Mais où donc est-il alors? Il est à l'endroit convenu entre Marquis, Varros et lui. Il est au trou des Gangones. Connaissez-vous les chemins qui conduisent à cette caverne, qu'on dit inaccessible pour tout autre que les montagnards des corps francs? Je les connais. Et vous êtes sûr de ne point vous perdre ou vous égarer dans ces dangereux sentiers? J'en suis sûr. Quand partirons-nous? À l'instant même, si vous vous sentez la force de marcher. La force, c'est la volonté, répliqua Raoul. J'ai la volonté, une volonté ferme et inébranlable. Donc je suis fort. Maggie tira d'une sorte de bissac qu'elle portait un morceau de pain noir et une petite gourde. « Mangez un peu de ce pain, » dit-elle ensuite, « et prenez une gorgée d'eau-de-vie. Nous nous mettrons en route aussitôt après. » Raoul but et mangea, et si frugale et insuffisante que fût cette nourriture, il se sentit cependant ranimé et réconforté. « Venez maintenant, » dit Maggie, et elle se dirigea vers la poterne du rempart. Le jeune homme la suivit d'un pas un peu lourd d'abord et hésitant, mais qui ne tarda guère à devenir ferme et assuré. Ils franchirent la poterne qu'ils trouvèrent tout ouverte et s'enfoncèrent dans la vallée en côtoyant les rives de la Bienne. « Nous avons du chemin à faire, » dit Maggie, « et je voudrais ménager vos jambes, messire Raoul, en ne vous contraignant point à marcher trop vite. Il est bien essentiel cependant d'arriver à la Rixouze avant le jour. D'ici là, nous avons à traverser deux villages, Avignonnet et Valfin. C'est de ce côté-là que les grilles se tiennent d'habitude, et j'ai peur que nous ne rencontrions quelques-unes de leurs bandes. Et pourtant, le capitaine Lacuzon les a si bien écharpés aujourd'hui à Saint-Claude qu'ils doivent se cacher et ne guère songer à courir le pays. Une fois Valfin passé, nous n'aurons plus grand-chose à craindre. « Et les Suédois ?» demanda Raoul. « Où sont-ils ? » Ils ont voulu recommencer la bataille et rentrer dans la ville au milieu de l'incendie. Le capitaine Lacuzon, le colonel Varros et les montagnards les ont repoussés et leur ont donné la chasse du côté de Longchaumois. À cette heure, s'ils courent toujours, ils doivent être loin. Ils vont sans doute chercher à se reformer. Peut-être, mais pas de sitôt. J'imagine qu'ils gagneront Nantua le plus vite possible, ou encore qu'ils descendront à Clairvaux. Mais que feraient-ils dans cette ville ruinée et presque abandonnée par les habitants ? Vous savez sans doute que les immenses domaines et le château des barons de Champdivers sont situés dans les environs. Ah, si le noble baron Tristan était encore de ce monde, ou si son fils vivait, comme ces braves seigneurs et ces fiers gentilshommes auraient bien su barrer le chemin aux Suédois fugitifs et n'en auraient pas laissé sortir un seul de la province. Vous semblez parler avec émotion et avec attachement de cette race des Champdivers, dit Raoul. C'est cependant une famille éteinte. Et je croyais son nom à peu près oublié. Oublié ? Répéta vivement Maggie. Oublié ? Un nom comme celui-là ? Ne le croyez point, messire. Dans 20 ans, comme aujourd'hui, pour la génération qui grandit comme pour la génération qui s'éteint, pour nos enfants et pour les fils de nos enfants, ce nom restera vivant et vénéré aussi longtemps que le dernier vestige de reconnaissance ne sera point effacé dans le cœur des montagnards. Les Champdivers faisaient donc du bien ? Ils en faisaient autant que la plupart des autres seigneurs font de mal, et ce n'est pas peu dire. Ils étaient depuis des siècles les bienfaiteurs du pays. Et on s'en souvient, messire. Oh, vieux manoir incendié, pourquoi le lierre couvre-t-il aujourd'hui les ruines de tes tourelles, autrefois si fières ? Pourquoi le plus noble sang de la province a-t-il coulé sous le poignard des assassins ? Oh, baron Tristan et toi, pauvre enfant, sur qui reposait tant d'espoir, pur rejeton d'une tige si belle. Quand donc viendra votre vengeur ? Tout en parlant ainsi, la vieille Maggie s'était animée peu à peu, et sa voix, enrouée d'abord et à peine distincte, était devenue éclatante et solennelle comme celle d'une prophétesse. La haute taille de la prétendue sorcière se redressait, ses longs cheveux gris flottaient au vent, son regard était plein d'éclairs, et sur toute sa personne rayonnait une sorte d'étrange majesté, la majesté du malheur et de l'enthousiasme. Raoul, en l'écoutant, sentait son cœur battre avec impétuosité. 20 fois il avait été au moment de l'interrompre pour lui crier « Femme, cette race que vous croyez éteinte est plus vivante que jamais. Ce rameau que vous croyez brisé refleurira bientôt. Cet enfant que vous pleurez si amèrement n'est pas mort. Je suis Raoul de Champdivert. » Mais il avait lutté contre cette violente tentation de se trahir lui-même, et voulant se donner le temps de calmer l'émotion toute puissante qui s'emparait de lui, il avait ralenti son pas, de façon à ce que Maggie pût le dépasser. Enseveli dans une sorte d'extase où la plongeaient les pensées et les souvenirs qu'elle venait d'évoquer en elle-même, la vieille femme continua à marcher pendant quelques instants sans s'apercevoir qu'elle était seule. Mais bientôt, n'entendant plus le bruit des pas réguliers de son compagnon, elle se retourna et elle vit qu'une assez grande distance la séparait de Raoul. Elle revint vivement vers lui. « Est-ce que votre blessure vous fait souffrir, messire ?» lui demanda-t-elle. « Est-ce que vous vous sentez déjà fatigué au point de ne pouvoir continuer la route ?»«
Non, » répondit le jeune homme, « ma blessure n'est rien. C'est à peine si je la sens encore, et l'air froid de la nuit me fait grand bien. Quant à mes jambes, elles sont bonnes et ne seront point fatiguées de sitôt. Il m'avait semblé entendre un bruit de pas derrière nous, et c'est pour écouter mieux que je me suis arrêtée. »
Maggie prêta l'oreille. « Vous vous êtes trompée, » dit-elle au bout de quelques secondes. « Je suis vieille, mais l'habitude de vivre au grand air et de coucher souvent dans les bois sur un lit de feuilles sèches a développé certains de mes sens d'une façon extraordinaire. Ainsi, nul archer franc-comtois n'a le coup d'œil plus prompt et plus perçant que moi. Je ne confonds pas dans la nuit le pas du loup et celui du renard, et je distingue à une grande distance le soupir d'une créature humaine au milieu des plaintes du vent. Je vous répète, messire, que vous vous étiez trompé et que personne ne vient derrière nous. »
« Marchons alors, » répondit Raoul.
« Marchons. » Le jeune homme et la vieille femme se remirent en route l'un à côté de l'autre et cheminèrent assez longtemps sans échanger une parole. Quoique peut-être les pensées qui se succédaient dans leur esprit eussent de part et d'autre plus d'un point d'analogie. Ils traversèrent les deux villages dont Maggie avait parlé et ni dans l'un ni dans l'autre ils ne firent de mauvaises rencontres. Quand ils arrivèrent à la Rixouze, il était 6 heures du matin. C'est assez dire que la nuit était profonde encore et que tous les paysans dormaient dans leurs maisons solidement fermées. « Maintenant, messire, » dit Maggie lorsqu'ils eurent franchi les dernières maisons du hameau, « je vous répète que par ici, nous n'aurons plus rien à craindre des gris. Si vous vous sentiez trop là, rien ne nous empêcherait d'entrer dans une grange isolée, que je connais, à une demi-lieue d'ici, et d'y dormir paisiblement pendant 2 ou 3 heures, pour reprendre des forces. »
« Dormir ? » s'écria Raoul. « Dormir lorsqu'il s'agit de retrouver et de défendre Églantine ? Ce serait une faiblesse et presque une lâcheté qu'une femme même ne se pardonnerait pas. Sommes-nous loin encore ?»«
Oui, messire, nous sommes loin, bien loin, et si la route a été belle jusqu'ici, en revanche, elle ne tardera guère à devenir véritablement effrayante. »
« Qu'importe, puisque d'autres y passent, puisque vous y passerez vous-même, il faudra bien que j'y passe aussi, moi. »
« Venez donc, messire, et que Dieu permette, dans sa justice, que vos forces soient à la hauteur de votre courage. » Après 2 nouvelles heures d'une marche rapide, le clocher du village de Saint-Laurent apparut aux voyageurs. Maggie s'arrêta.
« Messire, dit-elle, vous devez avoir faim. »
« Oui, répondit Raoul, je n'ai mangé depuis près de 24 heures que le morceau de pain que vous m'avez donné cette nuit. Mais s'il faut attendre, j'attendrai. Et de même que je lutte contre la fatigue, je lutterai contre la faim. »
Maggie chercha dans son bissac. Elle n'y trouva que la petite gourde aux 3/4 vide.
« Plus rien, » murmura-t-elle. Puis tout haut, elle demanda, « Avez-vous de l'argent, messire ?»«
Oui. »
« Tant mieux, car avec de l'argent, on achète du pain. Donnez-moi une pièce de monnaie, et en traversant Saint-Laurent, je vous aurai ce qu'il faudra. » Raoul se fouilla aussitôt. Mais la poche de son pourpoint, cette poche qui la veille contenait une bourse lourde et gonflée d'or, était en ce moment tout à fait vide.
« J'ai perdu ma bourse !» s'écria-t-il quand il eut bien constaté que les autres poches étaient aussi parfaitement inhabitées que la première.
« Non, messire, » répondit Maggie, « vous n'avez rien perdu. On vous a volé. »«
Qui donc ? » ?»«
L'un des bandits qui venait de vous assassiner. » »«
Je l'aurais parié, car le contraire eût été peu vraisemblable. » »«
Que faire ?
Ne vous inquiétez de rien, messire. Je pourvoirai à tout. Vous avez faim, vous mangerez.
Quel est votre projet ?
Oh, c'est un projet bien simple et qui ne vaut pas la peine d'être expliqué.
Nous allons nous séparer.
Nous séparer ? S'écria Raoul. Et comment voulez-vous que je retrouve mon chemin sans votre aide ?
Notre séparation ne sera pas longue. Vous voyez là, en face de nous, le clocher de Saint-Laurent.
Oui, le village n'a qu'une seule rue. Ou plutôt, le village ne consiste qu'en une double rangée de maisons alignées de chaque côté de la route. Il n'y a pas moyen de se tromper. Un aveugle même ne s'égarerait pas.
Eh bien, messire, je vais gagner les devants. Vous me laisserez prendre un peu d'avance. Vous me suivrez dans 5 minutes, par exemple, et nous nous rejoindrons à quelques centaines de pas plus loin que la dernière maison du village.
Mais pourquoi ne voulez-vous pas traverser ce village avec moi ?
Est-ce à cause de la pauvreté de vos vêtements ? Et me supposez-vous donc assez de misérable petitesse dans l'esprit pour rougir d'être vu en votre compagnie ?
Non, messire, je ne crois pas cela. Je ne doute ni de votre esprit, ni de votre cœur. Mais il faut que ce que je vous demande en ce moment soit fait comme je le désire.
Ne puis-je savoir pourquoi vous semblez attacher tant d'importance à une chose qui en a si peu ?
Parce qu'il le faut.
Mais au moins donnez-moi une raison, bonne ou mauvaise, ne fût-ce que pour satisfaire ma curiosité.
Et si je vous donne cette raison, vous me laisserez agir à ma fantaisie ?
Oui, vous me le promettez ?
Je vous le promets sur l'honneur.
Alors, messire, puisque maintenant vous n'avez plus le droit de me détourner de mon projet, quel qu'il soit, je puis vous dire la vérité.
Ce pain qu'il nous faut et que je ne puis acheter, je vais le demander à l'aumône. Je vais tendre la main à chaque maison en traversant Saint-Laurent, jusqu'à ce que des âmes charitables m'aient donné le nécessaire.
Et vous qui êtes noble, messire, car je vois bien que vous êtes noble, quoique j'ignore votre nom. Vous comprenez qu'il n'est pas possible qu'un gentilhomme soit vu par des paysans dans la compagnie d'une mendiante.
Et sans même attendre la réponse de Raoul, Maggie s'éloigna d'un pas rapide, en tournant la tête de temps en temps pour bien s'assurer que le jeune homme ne cherchait point à la rejoindre, malgré sa promesse.
Le médecin des pauvres, chapitre 2. Le fantôme. Raoul, profondément touché de l'absolu dévouement manifesté par cette pauvre femme qui semblait lui avoir vendu son âme en échange de la vie qu'il lui avait conservée, suivit sans se hâter le chemin qui conduisait à Saint-Laurent, traversa le village et quelques centaines de pas plus loin que la dernière maison, trouva Maggie assise au bord de la route et l'attendant. Au moment où il la rejoignait, elle se leva.
« Voyez, messire, lui dit-elle en ouvrant son bissac, voyez, il y a encore de bonnes âmes dans la montagne. Les habitants de Saint-Laurent ne sont pas riches, et les temps sont bien durs. Cependant, je n'ai eu qu'à frapper à la porte de 3 maisons. Je n'ai éprouvé de refus nulle part, et l'on m'a donné, non pas assez peut-être pour un festin de prince, mais assez du moins pour un repas de voyageurs. »
Le bissac contenait près de la moitié d'une miche de croupimbi, un morceau de lard fumé et un carré de ce fromage qu'on appelle aujourd'hui fromage de gruyère.
« Ah ! » répliqua vivement Raoul, « jamais prince n'aura fait un meilleur repas, car jamais sans doute il n'aura eu un aussi vif appétit pour l'assaisonner. »
Il s'assit sur un des talus du chemin et il se mit à manger, ou plutôt à dévorer. Quoi qu'on en puisse dire, la faim ne perd jamais ses droits quand on est jeune et qu'on marche depuis de longues heures. Et bien rarement, je crois, l'amour et l'inquiétude peuvent faire momentanément oublier ses exigences.
« Maintenant, » dit Raoul lorsqu'il eut achevé, « je me sens dispo et fort, autant et peut-être plus que cette nuit en quittant Saint-Claude. Je vous assure que je marcherai jusqu'à ce soir sans m'arrêter.
Grâce à Dieu, messire, vous n'aurez pas besoin de marcher si longtemps. J'espère bien qu'avant midi, nous serons au trou des Gangones. »
« Pourquoi ce nom donné à cette grotte ? » demanda Raoul.
« Dans le patois des montagnes, les cloches s'appellent des Gangones, à cause sans doute du bruit qu'elles font, et que le mot cherche à imiter.
Eh bien ?
Eh bien, quand on applique son oreille contre le rocher, dans la grotte, on entend très distinctement le son des cloches.
À quoi cela peut-il tenir ?
D'autres le savent peut-être, moi je l'ignore.
Voulez-vous que nous nous remettions en marche, messire ?
Me voici prêt.
Après avoir suivi la route pendant environ 3/4 de lieue, Maggie s'arrêta.
Messire, dit-elle, notre chemin direct serait de continuer par la chaude de Dombief.
Mais j'ai des raisons pour ne point passer par là.
Qu'allons-nous faire ?
Nous allons prendre à gauche et nous engager dans la forêt de Bonlieu, dont vous voyez la lisière à un demi-quart de lieue, et dont je connais les moindres sentiers. Venez et soyez sans inquiétude, je vous promets de vous bien conduire. Je vous suis comme si la Providence elle-même me prenait par la main pour me diriger. Ma confiance dans ce dernier cas ne serait pas plus absolue. » Un regard de la vieille femme remercia Raoul, et gagnant à travers champs la lisière du bois, elle s'enfonça avec son compagnon sous les futaies séculaires qui couronnaient une sorte de gigantesque falaise taillée à pic presque partout et bordant le vallon au fond duquel s'élevait jadis l'abbaye célèbre de Bonlieu. Arrivé sur l'extrême bord de la ceinture de rochers dont nous venons de parler, Raoul s'arrêta, pétrifié en quelque sorte par l'étonnement et l'admiration. Jamais, en effet, ce spectacle plus terrible et plus beau tout à la fois ne s'était offert à ses regards. Au fond d'une gorge verdoyante, enfermée de tous côtés par des murailles de rochers qu'on aurait pu croire amoncelés les uns sur les autres par les fortes mains des titans, blocs de granit les uns brillants les autres sombres, couronnés par la noire verdure des sapins séculaires, enfonçant leurs racines dans le roc nu comme des serres d'aigle, les ruines de l'abbaye étalaient leurs ruines pittoresques au bord d'un lac aussi profond, aussi bleu que les lacs de la verte Écosse. Ces colonnes brisées, ces arceaux démolis, ces voûtes effondrées que le lierre recouvrait de son manteau royal, tous ces débris enfin, à côté de ces rocs inébranlables et de cette éternelle verdure, disaient bien haut la toute-puissance du Créateur et l'infinie faiblesse de la créature. Raoul, nous le répétons, s'était arrêté. « Eh bien, messire, que faites-vous ? » lui demanda Magui. « Je regarde, » répondit-il. « Je regarde et j'admire. » « Le temps nous manque aujourd'hui pour l'admiration. Venez, je vous en prie. » La vieille femme s'engagea résolument dans une sorte de fente ou de coupure que les eaux pluviales et les fontes de neige avaient mis des milliers d'années à creuser dans la falaise et qui, du sommet du roc, conduisait dans le vallon. Aux grèves de la Bretagne et de la Normandie, une coupure du genre de celle dont nous parlons s'appelle une valeuse. Après quelques minutes d'une marche difficile, mais non périlleuse, Magui et Raoul arrivèrent sur le bord du lac de Bonlieu. Un petit ruisseau d'une eau transparente comme du cristal de roche et glacée comme de la neige à peine fondue prend naissance dans le lac et, tout en serpentant et en murmurant, suit les nombreuses sinuosités d'une vallée étroite et presque entièrement boisée qui, du côté opposé à celui par lequel venaient d'arriver nos personnages, aboutit au val de la Chartreuse. C'est ainsi qu'on nomme l'emplacement des ruines de Bonlieu. Magui et Raoul suivirent pendant quelque temps le cours de ce ruisseau qui se brisait contre les blocs de pierre entassés dans son lit et les couvrait de blanche écume avec des frémissements et des grondements qui lui donnaient une certaine ressemblance avec un enfant en colère. Ce ruisseau se nommait et se nomme encore le Hérisson. Peu à peu, la gorge étroite s'élargit devant les voyageurs. Les arbres semés sur ses flancs s'éclaircirent et à un brusque tournant, ils virent se développer devant eux une vallée immense et magnifique que bornait du côté droit le prolongement de cette falaise au sommet de laquelle ils se trouvaient une demi-heure auparavant. « Pour arriver au trou des Gangones, » dit Magui, « nous n'aurions qu'à suivre le fil de l'eau. Mais il n'y faut pas penser. Pourquoi ? Les sentiers sont-ils donc dangereux au point de vous effrayer ?» Magui secoua lentement la tête. « Ce n'est pas cela, » répondit-elle ensuite. « Qu'est-ce donc ? C'est qu'il nous faudrait passer au pied du château de l'Aigle. » Raoul tressaillit. « Le château de l'Aigle, » répéta-t-il d'une voix sourde. « Sommes-nous donc si près du château de l'Aigle ? » ?»« Il est perché, comme le nid de l'Aigle auquel il doit son nom, sur le pic le plus élevé de la montagne que nous côtoyons. » « Et pourquoi tenez-vous à l'éviter ainsi ?»« Ne m'interrogez point, messire. En ce moment, je ne puis pas, ou plutôt, je ne veux pas vous répondre. »« Je respecte votre silence et vos secrets. Passez où vous voudrez, je vous suis. »« Voyez-vous, en avant de nous, à quelques centaines de pas, cette coupure dans le sol que nous foulons ?»« Je la devine plutôt que je ne la vois. » »« En cet endroit, le hérisson se précipite du haut du rocher dans un profond bassin. Nous allons descendre au niveau de ce bassin. » Et nous suivrons une gorge étroite et sombre, qui par un détour nous conduira à notre but, car elle va rejoindre la vallée dans laquelle nous sommes. La vieille femme et le jeune homme se remirent silencieusement en marche. Au bout d'une demi-heure, ils atteignaient l'extrémité de la gorge dont Maggie venait de parler. Sur la droite, le rocher cessait pour faire place à une pente gazonnée, excessivement rapide et cependant praticable. « Du haut de cette pente ?» demanda Raoul. « Peut-on voir le château de l'Aigle ?»«
On le peut, » répondit Maggie.
« Pourquoi me faites-vous cette question ?» La vieille femme n'obtint aucune réponse. Raoul, qui venait de s'élancer, était déjà loin d'elle. Elle comprit qu'il serait inutile de le rappeler, et s'asseyant sur un quartier du roc, elle attendit. Arrivée à moitié de la hauteur de la montagne, Raoul s'arrêta et se retourna. La masse imposante et la haute tour du château d'Antide de Montaigu semblaient surgir dans la nuit en face de lui. Il attacha sur ce formidable manoir un long regard plein d'une ardente fixité et d'une incroyable expression de haine. Mais soudain il pâlit, il chancela. L'étonnement et peut-être l'épouvante agrandirent ses yeux. Il fit le signe de la croix et il redescendit d'un pas rapide le versant qu'il venait de gravir.
« Comme vous êtes pâle, messire !» s'écria Maggie. « Qu'avez-vous donc ?»«
C'est étrange !» balbutia Raoul.
« D'où vient ce trouble, messire ? Que vous est-il arrivé ? Qu'avez-vous vu ?»«
Un spectre !» répondit Raoul. « Un fantôme enveloppé de blanches vapeurs que traversent les rayons du soleil. »
« Un spectre ? Un fantôme ? Où donc ?»«
Au château de l'Aigle, sur le sommet de la plus haute tour. »«
C'est une illusion, messire. »«
Non, non, c'est une réalité, j'ai vu, j'ai bien vu, je suis sûr. » »«
Alors, c'est quelque drapeau dont les plis flottaient au vent. » »«
Non, c'est une forme humaine, un spectre féminin. »« Mon regard est perçant comme l'œil du vautour, et malgré la distance, j'ai distingué dans les blanches vapeurs un visage pâle, un visage de morte. »
Maggie fit à son tour le signe de la croix.
« Ah » murmura-t-elle ensuite, « tout est possible, même l'impossible, car le château de l'Aigle est un château maudit. » Puis tout bas, elle ajouta, « Et le maître du château de l'Aigle est plus qu'un damné, c'est un démon. » Ensuite, sans ajouter une parole, Maggie se remit en route. Raoul, absorbé dans ses pensées, la suivit en silence. Ils avaient rejoint la vallée principale. Ils longèrent la côte de Ménétrux-en-Joux. Ils traversèrent, sur des pierres disséminées au milieu de son cours, le hérisson qui déjà avait grandi, et de ruisseaux se faisait rivière. Et ils arrivèrent à l'endroit où la vallée cesse par la réunion des deux montagnes boisées qui la forment.
« Nous approchons, » dit la vieille femme. « Ici commencent les mystérieux domaines qui servent d'asile aux montagnards des corps francs.
Là commencent aussi des difficultés sans nombre. 20 sentiers croisés en tous sens et plus embrouillés que le chanvre sur la quenouille d'une fileuse se mêlent et s'enlacent à dessein, afin de dépister les ennemis qui voudraient tenter une surprise. Lequel de ces sentiers devons-nous suivre ? Voilà ce qu'il faut découvrir, ou plutôt ce qu'il faut deviner, car c'est presque une affaire d'instinct. Cependant, j'ai trouvé déjà, je trouverai encore. Venez. » Et Maggie, courbée vers le sol et suivant du regard des traces invisibles, sans doute pour tout autre que pour elle, s'engagea résolument dans le taillis, comme un limier exercé qui suit le gibier. Son instinct ou ses observations ne la mirent point en défaut. Le sentier qu'elle suivit était le véritable. Soudain, une voix qui semblait partir du ciel cria « Qui va là ?» Raoul leva la tête et vit un montagnard debout sur une pointe de rocher. Il tenait son mousquet en joue et prêt à faire feu.
« Répondez !» dit vivement Maggie. « Dites le mot !»«
Saint-Claude et l'accusons !» fit Raoul.
« Où allez-vous ?
Joindre le capitaine qui m'attend. »«
Et cette femme ? Elle m'accompagne. »«
Passez !» Le montagnard approcha de ses lèvres une de ses cornes qui servent de trompe au berger, et il en tira un son aigu et retentissant. Puis il disparut et tout rentra dans le silence. Raoul venait de voir pour la première fois un montagnard revêtu de l'uniforme des corps francs. Cet uniforme était simple. C'était les hauts de chausses collants, recouverts par la guêtre de cuir qui serrait la jambe, montaient jusqu'à mi-cuisse et descendaient sur le soulier à lourdes semelles ferrées. L'habit fermé à large basque s'ajustait étroitement à la taille. Une ceinture de cuir soutenait le poignard et les pistolets. L'épée pendait à un large baudrier également de cuir.
Le chapeau était en feutre noir, de forme ronde et relevé d'un côté.
« Ah !» murmura Maggie, « l'accusant se garde bien. Il faudrait qu'il eût les ailes de l'aigle, celui qui voudrait surprendre le capitaine. Et encore, je crois qu'une balle montagnarde l'arrêterait au passage. »
Le facile sentier que Raoul et la vieille femme avaient suivi jusque-là devenait à partir de cet endroit incroyablement périlleux. À peine tracé dans le flanc d'une roche à pic qui surplombait un précipice plein de brume et de vapeur, il se transformait par endroits en une sorte d'escalier irrégulier, et enfin il finissait par n'être plus qu'un mince rebord, large d'un pied tout au plus, ayant au-dessus et au-dessous une muraille parfaitement lisse de 200 pieds au moins, et dominant une cascade qui tombait avec un effroyable fracas dans un précipice habité par le vertige aux doigts crochus.
« Messire, dit Maggie à son compagnon, ne regardez ni en bas ni en arrière, regardez devant vous. Marchez d'un pas ferme et tranquille, et tâchez de vous figurer que vous êtes sur un grand chemin, et que vous avez à droite et à gauche autant d'espace qu'il en faut pour la marche d'un homme ivre. »
Raoul suivit ce conseil, et au bout de quelques minutes, il avait franchi le terrible passage.
« Vous pouvez maintenant vous arrêter et vous retourner, » reprit la vieille femme.
Le jeune homme pâlit malgré lui en jetant les yeux sur cette corniche étroite et glissante qu'il venait de parcourir.
« Affaire d'habitude, » continua Maggie, « les montagnards de l'accusant et l'accusant lui-même passent par là par tous les temps et à toutes les heures de jour et de nuit. Ils y passeraient les yeux fermés. Nous voici d'ailleurs bien près du but de notre voyage.
Où est la grotte ?
À une demi-lieue de chemin, tout au plus, et de ce côté de la montagne. Ce qui n'empêche pas que pour y arriver, il nous faudra traverser deux fois le hérisson.
Pourquoi cela ?
Parce qu'à côté d'ici, le sentier que nous suivons s'interrompt brusquement. D'ailleurs, vous allez voir. »
Le bois recommençait. Ils s'engagèrent dans le sentier étroit qui, s'éloignant du rocher, se rapprochait du ruisseau devenu torrent, qu'on entendait non plus murmurer ainsi qu'un enfant capricieux, mais rugir comme un lion menaçant. Enfin, ils atteignirent les rives encaissées, entre lesquelles ils couraient impétueusement, pour bondir jusqu'à la cascade, du haut de laquelle ils se précipitaient avec un fracas de cataracte.